Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Vous allez entendre dès le début de ce journal Gisèle Pélicot ce matin. Gisèle Pélicot raconte comment elle a appris l'horreur et le tout début de l'affaire des viols de Mazan. On va revenir dans ce journal sur les dernières conséquences de la tentaculaire affaire Epstein en France. Un diplomate mis en cause et une plainte déposée contre un Français présenté comme un rabatteur. Et vous verrez aussi que c'est par RMC, en écoutant RMC, que des joueurs de l'OM ont appris ce matin le départ de leur entraîneur Roberto De Zerbi.
Gisèle Pélicot prend donc la parole ce matin.
À une semaine de la sortie de son livre dans lequel elle se dévoile l'affaire et le procès des viols de Mazan qui a fait d'elle une figure de la lutte contre les violences faites aux femmes avec, chacun s'en souvient, la condamnation de Dominique Pélicot qu'il a livré des années durant à une cinquantaine d'hommes. Et bien justement, ce matin, Gisèle Pélicot raconte dans une interview au New York Times quand elle a appris l'horreur dans le bureau d'un policier, c'était au commissariat de Carpentras.
Il y a une pile de dossiers à côté de son bureau. Il m'a dit, écoutez, Madame Pélicot, ce que je vais vous annoncer ne va pas vous faire plaisir. Et là, je commence vraiment à m'inquiéter. J'ai mon cœur qui commence à s'emballer. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il commence à ouvrir une chemise et là, il commence à me montrer une photo. Vous vous reconnaissez sur cette photo? Et bien sûr que non, je ne me reconnais pas. Parce que je suis accompagnée d'un homme que je ne connais pas, qui est en train de me violer. Et je lui dis, mais non, je ne connais pas cet homme. Et je commence à me dire, mais c'est pas moi. Peut-être qu'il se trompe, parce que comme j'ai pas mes lunettes, je ne vois pas bien. Et il me montre une deuxième photo, qui est à peu près la même chose. Et il me dit, Madame Pélicot, c'est bien vous, là. Et je lui dis, mais non. Enfin, et là, il me dit, c'est votre chambre, Madame Pélicot. C'est vos lampes de chevet. On est allé perquisitionner chez vous. C'est bien vos affaires. Je crois que mon cerveau a fait une dissociation. Il voulait me montrer les vidéos. J'ai dit, donc, je peux plus.
Voilà, donc la sortie du livre de Gisèle Pélicot, dont les premiers extraits sortent dans la presse, est prévue mardi prochain. Il y a donc de nouvelles conséquences en France dans le scandale Jeffrey Epstein, depuis la divulgation de documents par la justice américaine fin janvier sur le pédocriminel américain. Il y a d'abord le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui se dit effaré et qui saisit la justice après la mise en cause d'un diplomate français, Fabrice Hédan, cité dans des documents pour avoir échangé dans les années 2010 avec l'américain. Et il y a donc désormais une plainte déposée pour viol et trafic d'êtres humains par une ancienne mannequin suédoise contre un autre Français, un certain Daniel Siyad, qui est présenté, Julie Brault, comme étant un rabatteur.
Maroc, Afrique du Sud, Cuba ou encore Thaïlande, Daniel Siyad a sillonné le monde pendant une dizaine d'années à la recherche de jeunes mannequins. Un recruteur ou plutôt un rabatteur, selon la justice américaine qui le soupçonne d'avoir envoyé de nombreuses femmes vers le milliardaire américain. Daniel Siyad est en effet cité plus de 2000 fois dans le dossier de Jeffrey Epstein. Les documents de la justice américaine retracent notamment leurs nombreux échanges dans lesquels le chasseur de tête envoie des photos de ses trouvailles en précisant systématiquement le jeune âge de chaque femme repérée. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Daniel Siyad maintient pourtant qu'il ne savait rien du trafic sexuel opéré par Jeffrey Epstein.
Je n'ai jamais présenté de ma vie un mannequin mineur qui était ou qui ne sont pas mineurs qui ont été abusés. Alors c'est pas, j'ai rien à me reprocher.
Le septuagénaire assure être prêt à affronter la justice et se dit lui-même victime de Jeffrey Epstein et qu'il qualifie aujourd'hui de pédophile et de crapule.
Et la femme qui a porté plainte contre Daniel Siyad auprès de la justice française, elle vit aujourd'hui aux États-Unis. Elle a répondu à mes questions cette nuit, heure effectivement américaine. Et cet entretien, il sera à suivre à 9h sur BFM TV.
Aux États-Unis, tiens, Donald Trump reçoit Benjamin Netanyahou aujourd'hui la septième fois en un an pour évoquer le dossier iranien. Ce terrible bilan aussi de 9 morts dans une fusillade cette nuit au Canada, dans une petite ville isolée des Rocheuses. On en ignore encore les raisons. Plusieurs médias canadiens disent que c'est une femme qui a ouvert le feu dans une école notamment.
Il est 8h04 sur RMC et on vous révèle ce matin les premières pistes pour relancer la natalité en France.
Vous venez d'entendre sur RMC la présidente de la mission d'information qui rendra ses conclusions dans l'après-midi pour défendre l'idée d'un nouveau congé universel de naissance d'une durée allant de 9 à 12 mois pour inciter les Français à devenir ou redevenir parents. C'est une piste, mais déjà des avis. Écoutez avec Inès Zeglou, les Philippines Boulet pour RMC.
Laurine est en couple à 26 ans et pour l'instant, elle n'a pas d'enfant.
Alors moi, j'ai toujours dit que j'en voulais pas.
Mais l'idée d'un congé de naissance porté à 9 ou 12 mois pourrait l'encourager.
Si on me dit que j'ai que un mois après mon accouchement pour me remettre, là non. Par contre, si on me dit qu'il y en a plus, j'y réfléchirai peut-être à deux fois.
Aujourd'hui, le congé maternité est fixé à 3 mois et demi pour un premier enfant. Pour Léa, déjà deux fois maman et actuellement enceinte, c'est trop peu.
À ces âges-là, les enfants, ils ont souvent des problèmes de ventre, ils dorment pas.
Allonger le congé maternité permettrait, selon elle, un retour au travail moins brutal.
Ça permet de reprendre plus sereinement.
Inès, qui aimerait devenir maman, ne s'imagine pas confier son bébé à un inconnu seulement deux mois après sa naissance.
J'ai eu le cas des proches qui ont laissé leur enfant à deux mois et demi à une nourrice qu'ils connaissent à peine. Et je pense que c'est compliqué, quoi.
Pour Nicolas, le problème dépasse la question du congé.
Il n'est pas à ce niveau-là le poids. Il est plus de se dire, est-ce que je vais avoir une société agréable pour faire grandir un enfant ? C'est pas de dire, ok, je vais avoir quelques jours en plus pour m'en occuper.
Reste une bonne nouvelle, selon Nicolas, ce congé universel de naissance aurait la même durée pour les mères et les pères, de quoi encourager ces derniers à s'impliquer dès les premiers mois de parentalité.
Je signale qu'en plus de la tempête qui arrive par l'ouest, nouvelle tempête, le risque d'avalanche est très élevé à la montagne, de niveau 4 sur 5 dans quasiment toutes les Alpes et les Pyrénées en pleine vacances scolaires. Tiens, ça c'est le coup de tonnerre du jour en football. Marseille qui se sépare de son entraîneur, Roberto De Zerbi. C'est vous, Florent Germain, qui avez révélé cette info hier soir sur RMC. Elle a été confirmée dans la nuit par un communiqué. Florent, vous êtes en direct avec nous ce matin. Comment ça s'est passé?
Alors écoutez, les dirigeants et l'actionnaire Franck McCourt ont négocié cette nuit les modalités de son départ. De Zerbi percevait un salaire de plus de 500 000 euros brut par mois. Il était sous contrat jusqu'en juin 2027 avec de nombreux adjoints, donc cela nécessitait forcément une validation du boss américain. De Zerbi et les dirigeants ont fait en gros depuis 48 heures un constat sans appel. Le discours de l'entraîneur ne passait plus auprès des joueurs. Le fiasco de Bruges, l'élimination de la Ligue des Champions l'avait déjà fragilisé. Le 5-0 dimanche à Paris a précipité sa chute et la colère des supporters grimpait. Il fallait réagir. On nous décrit depuis hier un Roberto De Zerbi très triste, dévasté. Les joueurs, pour certains, ont appris la nouvelle suite aux infos dévoilées par RMC, car les dirigeants marseillais gardent une certaine rancœur envers l'attitude de l'équipe ces derniers matchs. Pour le prochain OM Strasbourg samedi, une solution intérimaire devrait s'imposer. L'adjoint Jacques Abardonado et Romain Ferrier, le coach de l'équipe réserve, devraient être sur le banc.
Et puis ne manquez pas l'événement ce soir, l'After Foot sera en direct de Lens dès 21h jusqu'à minuit sur RMC, émission spéciale en direct donc du stade du club qui est au coude à coude avec le PSG en haut du classement de la Ligue 1. Parmi les invités de l'After, il y aura le capitaine Adrien Thomasson et puis l'entraîneur Pierre Sage.
Et alors normalement, je dis bien normalement, le compteur devrait enfin décoller aujourd'hui aux Jeux Olympiques.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan Cortina.
On en est à 3 médailles depuis celle en argent hier pour Éric Perrault en biathlon sur le 20 km individuel. Ce sera au tour des dames aujourd'hui à Anterselva. Il y aura aussi la finale du ski de boss à Livigno avec deux Françaises dont Perrine Laffont. Et dans la soirée, ça va se passer à la patinoire de Milan. On vous retrouve déjà en direct ce matin pour RMC Arnaud Valadon. Il y aura la fin du concours de danse sur glace avec le duo Guillaume Cizeron, Laurence Fournier-Baudry qui est en tête du classement pour l'instant.
Grâce à leur victoire lors du programme court lundi, ils sont aux portes de la médaille d'or et ce soir, lors du programme libre d'une durée de 4 minutes, les deux danseurs auront l'avantage. Ils ont eu des scores supérieurs à ceux de leurs rivaux américains deuxièmes, Madison Shock et Evan Bates cette année. Les Français devront cependant sortir le grand jeu et être parfaits techniquement à l'image de ce porté final en courbe, leur véritable signature. Mais le patinage, c'est aussi ses coups du sort et une chute bien que rare en danse peut toujours arriver à l'image de Laurence Fournier-Baudry hier à l'entraînement. Chute sans gravité, quelques égratignures. Cizeron peut lui marquer l'histoire ce soir en devenant le meilleur danseur sur glace de tous les temps. Jamais un patineur de cette discipline n'a réussi à devenir double champion olympique avec deux partenaires différentes.
Bon, et ben on suivra ça ce soir sur RMC, radio officielle, avec vous, Arnaud Valadon. Et pour ceux qui aiment le ski alpin, tiens, je signale qu'il y aura trois Français ce matin en Super G. C'est une épreuve de vitesse sur la piste de Bormio. Ça se passe pas très bien pour le moment pour le ski alpin français.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08.